franceinter.fr.
CO2, mon amour, en direct de Lille.
Eh oui, absolument, nous sommes à Lille, cher Germain Rigoni, parce que on sait que c'est un lieu, enfin la région Nord-Pas-de-Calais qui a été un peu matraquée hein, en matière d'environnement, et pourtant il y a des gens qui font. Donc on va parler de biodiversité principalement dans ce lieu, avec pas mal d'exemples, et on vous retrouve, Germain, pour les informations de 15h.
CO2, mon amour, avec l'énergiemoinschère.com, site d'information sur les primes énergie de Leclerc.
Ça se reconnaît en écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un caoué.
En amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
C'est une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, vous l'avez compris, aujourd'hui en direct du Nord-Pas-de-Calais, en direct de Lille. Un grand merci à nos amis de France Bleu Nord qui nous accueillent avec Timothée Couteau à la technique et assisté de Stéphane Combe, sans oublier Valérie Ayestaraï, c'est Fabrice Lègle qui réalise cette émission. Alors, pour passer mes vacances, eh bien, cette année, soyons fous et gaillardement changeons de cap, route au nord. Les beffrois nous appellent et la solidarité existe encore. Et oui, surtout quand il y a Thierry en la demeure, car ces maisons emplies de cette odeur de café léger toujours prêt, eh bien, c'est pas une carte postale, mais ça l'incarne encore à merveille. Alors, la Morne Plaine est aujourd'hui un nouveau western, à l'horizon dégagé par des ciels immenses qui carillonnent leurs histoires. Les crassiers du bassin minier déserté refleurissent comme autant de collines vertes. Et le vent du Nord charrie aussi quelques bonnes nouvelles, des jardins solidaires, une petite agriculture plus respectueuse qui relance parfois des commerces de proximité. Et on peut même croquer librement aussi, vous savez, des fruits sur les arbres dans certaines rues. Si, si, à Grande-Synthe, une ville industrielle où on se bouge les neurones, ce sera notre reportage. Et dans cette région, on le sait, l'environnement a été tellement matraqué. Fiches industrielles, pollution profonde des sols, nappes phréatiques en miettes, des cancers malheureusement plus nombreux qu'ailleurs en France, paysages couturés et logements sociaux à réhabiliter. Mais ici, au pied du mur, eh bien on se bat. La région vaut bien l'aide d'infirmières vertes, de politiques, d'associations qui viennent panser des plaies innombrables. Alors, laboratoire d'idées nouvelles, du côté de Lille, on tente de reconstruire la liaison homme-nature. Reforestation, nous en parlerons, ceinture verte, tout ceci redonne du sens, de la fierté et de la dignité. Un bassin en ébullition, un jacuzzi d'initiative, je vous le dis, c'est un haut lieu de la branchitude pour un touriste. Non, moi vraiment, si j'étais vous, j'échangerais le midi pour les voiles véloces des chars légers, filant comme des chevaux lâchés sur le sable humide, des longues plages des Flandres, du Nord, du Pas-de-Calais. Vous savez, quand les chiens jouent avec les hommes et que le soleil se lève. Et ici, dans ce monde déboussolé en surchauffe, perdre le Nord est tout simplement impossible.
La mer du Nord en hiver sortait ses éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise.
Et pour parler donc de ce Nord-Pas-de-Calais, nous avons trois invités. Jean-Marc Vallet, qui est le directeur du Conservatoire botanique national de Bailleul. Bruno Vinalba, qui est maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lille et qui nous parlera de ce laboratoire du développement durable. Qu'en est-il aujourd'hui au Nord-Pas-de-Calais? Et Emmanuel Coe, qui est le président des espaces naturels régionaux. Mais on va débuter d'abord par une actualité. Ça ne vous a pas échappé, la conférence sur le climat de Durban en Afrique du Sud va débuter le 28 novembre. Alors, ce que nous dit la science, c'est qu'on a déjà atteint, on va dire, au niveau mondial, à peu près 1 degré d'augmentation donc de climat par rapport au niveau pré-industriel. L'Agence internationale de l'environnement et le GIEC nous disent « Attention, vous jouez là aux apprentis sorciers. On n'est pas du tout sur la courbe qu'il faudrait, qu'il serait nécessaire pour ne pas dépasser les fameux 2 degrés. » Alors pour nous en parler, peut-être sur un angle un peu plus politique, Pierre Radan est expert en climat-énergie, part pour Durban. Un petit rappel, Pierre Radan, s'il vous plaît, par rapport à Cancun, donc il n'y a pas si longtemps, et quelles sont les perspectives?
L'année dernière, à Cancun, on s'est retrouvé face à une délégation américaine qui, après les élections de novembre 2010, n'avaient plus de majorité au Congrès. Hein. Les États-Unis sont en période de cohabitation hein, avec la Chambre des représentants qui est donc dans une hostilité très forte par rapport au passage de toute loi sur l'énergie et le climat. Et donc les États-Unis ne pouvaient ni donner leur accord sur le protocole de Kyoto, ni même de prendre des engagements internes avec une traduction parlementaire. Donc le résultat à Cancun, ça a été de chercher un accord sur la règle du plus petit dénominateur commun, et ce d'autant plus que le Japon, le Canada et la Russie avaient dit bah, si les États-Unis peuvent pas prendre un engagement, eh bien nous non plus. Et donc on s'est retrouvé avec seulement, parmi les pays industrialisés, l'Union européenne en faveur du protocole de Kyoto, ce qui mettait en grande difficulté. Le deuxième point derrière, c'est qu'entre-temps, on a connu une aggravation de la crise économique et financière.
Oui.
Cette crise financière tétanise tous les pays quant à mettre au pot pour la dotation du fonds qui a été annoncé à Copenhague, le fonds vert pour le climat.
C'est pas de très bonnes nouvelles, enfin a priori, même si rien n'est joué, Pierre Radan, mais on voit bien qu'il ne s'agit pas d'être optimiste peut-être sur ce qui va se passer.
Toutes les nouvelles sources financières qui étaient envisagées mettent beaucoup de difficultés, rencontrent beaucoup de difficultés à se mettre en place. C'est le cas, l'idée d'une taxe sur le kérosène, il y a beaucoup de pays qui sont contre. Peut-être qu'on va arriver à un accord sur une taxe sur le transport maritime. Et puis il y a toujours cette question de la taxe sur les transactions financières, sur lequel un certain nombre de pays maintenant affichent leur accord, notamment dans le cadre de l'Union européenne, on a vu ça à l'occasion du G20, mais ça ne peut pas en l'état être voté par le Congrès américain. Donc ça ne peut pas être aujourd'hui un dispositif généralisé, étendu à l'ensemble de la planète, alors que c'est cela, bien évidemment, qu'il faudrait faire.
Pierre Radan, il y a sûrement quand même des points positifs, peut-être en particulier du côté des collectivités territoriales.
Eh bien, il y a une avancée qui se fait et qui se fait sur le terrain. C'est les collectivités locales, par exemple avec la Convention des maires au plan européen. C'est les plans climat que l'on met en place en France et dans beaucoup de pays. Et on a les mêmes avancées maintenant dans les pays en développement. La perspective d'avancée de la négociation va être extrêmement liée à la capacité de réussir des projets de développement des pays, notamment les plus pauvres, dans un contexte où le prix de l'énergie est élevé et où donc économiser l'énergie, développer les énergies renouvelables est par bien des aspects dans beaucoup de pays rentable. Durban va avoir lieu bien sûr dans le continent africain qui est un continent qui a énormément de ressources en énergie renouvelable, qui est le continent le plus pauvre de la planète et qui est aussi l'un des continents les plus dévastés par les changements climatiques, notamment avec la progression des déserts.
Et en écoutant Nathalie Fontrelle, hein, qui va partir aussi à Durban, vous serez bien sûr informé sur les ondes de France Inter. Dans quelques instants, nous aurons notre dossier Nord-Pas-de-Calais biodiversité. Ce sera juste après Zebda, et oui, dimanche, où ça, autour de l'église.
Le dimanche autour de l'église, avec sous les yeux des valises, arrivent les desperados. La CA du visage chargé de n'importe quoi, des objets que t'en veux pas comme cadeau. Ce sont les rois du bar atteint dès le matin qui vous arrachent de tympans, ou bien des Roumains aux dents jaunes ou des gitans de Carcassonne, ça dépend. Et chacun dit à sa façon, au soleil de contrefaçon, une place jusqu'à midi, mais ils font gaffe aux réguliers qui eux sont servis les premiers. D'ailleurs ils arrivent en Audi.
Y'a autour de mon église et partout y'a des langues qui se mélangent. Chouïa, y'a pas de prénom, y'a que des rouillas qu'on appelle aussi des trompettes. Y'a autour de mon église et partout
a pas de prénom, y a que des rouillards. Ou qui n'est pas célèbre interprète.
Dans l'église, le vieux gratin vous chante la messe en latin. Dehors, personne n'est contre sauf les Sénégalais et les Gascons qui parlent avec le mot con. Voudrait qu'on la chante en Wolof. Les Roumaines, même l'air vague, te font regretter une Pâque. Il faut qu'elles fassent de l'argent, sinon on les astique au détergent. Moi, des jours comme ce jour-là, je me dis, je me sens chez moi. Parce que c'est une journée banale, ce jour-là, je me sens pas seul. Putain, qu'est-ce qu'elle prend dans sa gueule, l'identité nationale.
Il y a autour de mon église et partout, il y a des langues qui se mélangent, je suis y'a. Il n'y a pas de prénom, il n'y a que des rouillas, qu'on appelle aussi des trompettes. Il y a autour de mon église et partout, il y a des langues qui se mélangent, je suis y'a. Il n'y a pas de prénom, il n'y a que des rouillas, ou qui dépasse l'interprète. Il y a autour de mon église et partout, il y a des langues qui se mélangent, je suis y'a. Il n'y a pas de prénom, il n'y a que des rouillas.
Zebda sur France Inter pour débuter donc CO2 Mon Amour en direct de Lille, des gens du Nord, mais du Nord de la Méditerranée. Mais oui, faut les présenter ainsi. Nous avons donc autour de cette table pour parler de biodiversité et du Nord-Pas-de-Calais. On a presque l'impression que c'est un oxymore, hein, c'était cette affaire-là. Eh bien, vous allez voir que non. Jean-Marc Vallet, le directeur du Conservatoire Botanique National de Bayeul. Bonjour à vous, Jean-Marc Vallet.
Bonjour.
Et vous êtes aussi le directeur de l'Observatoire Régional de la Biodiversité. Alors déjà, quelles sont les missions très rapidement du Conservatoire Botanique National? Parce qu'il y en a donc une dizaine en France. Il y en a deux en Outre-mer. Quelles sont les missions?
Il y a quatre missions principales. La première, c'est évidemment, c'est la recherche scientifique et les inventaires naturalistes. Ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. La deuxième mission, c'est tout ce qui concerne la préservation. Alors, soit sur le terrain, c'est ce qu'on appelle la préservation in situ des espèces et des milieux naturels. La préservation ex situ, ça, ce sont les graines que nous conservons donc au conservatoire. La troisième mission, ce sont les conseils aux collectivités et à l'État pour tout ce qui concerne les politiques publiques en faveur de la biodiversité ou la gestion des milieux naturels. Et la dernière, eh bien, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation à la nature, en particulier au patrimoine végétal.
Alors Jean-Marc Vallet, faisons maintenant un peu cet inventaire. Qu'est-ce que l'on peut dire sur la biodiversité dans cette région Nord-Pas-de-Calais?
Alors ça, c'est le genre de question que les scientifiques naturalistes redoutent, parce qu'évidemment, dans une région de 4 millions d'habitants, on imagine bien qu'il y a un certain nombre de pressions. Donc nous avons fait un bilan donc au sein
de
l'Observatoire.
Juste, pardonnez-moi, 4 millions d'habitants, mais 2,30% du territoire. Donc
oui,
c'est-à-dire qu'il y a une bonne densité.
C'est ça, tout à fait, avec des pics, en particulier sur le littoral, puisqu'on dépasse largement les 600 habitants au kilomètre carré, donc ce qui est assez considérable. Donc l'Observatoire a fait un bilan pour 2010, hein, c'est ce qui avait été demandé par l'État et la région. Et donc on a commencé à regarder au niveau flore ce qu'il en était. Donc nous avons traité à peu près 3,5 millions de données pour regarder la situation. Et le constat, c'est que je ne veux pas dire que la nature va mal, parce que c'est toujours pessimiste de dire ça. Je vais répondre, je vais dire qu'elle pourrait aller un peu mieux. C'est un peu plus optimiste. Donc en matière de flore, le bilan, eh bien voilà, c'est que depuis à peu près un siècle, nous avons perdu 10% de toutes les espèces végétales qui existaient dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et lorsqu'on regarde les critères de menace pour la partie flore, eh bien pour le reste des espèces qui restent, donc on en a à peu près la moitié qui sont menacées d'extinction. Donc vous vous rendez compte, 50%, c'est assez considérable. Donc ça, c'est pour la partie flore. Pour la partie faune, assez paradoxalement, la région Nord-Pas-de-Calais est riche. Elle a ce qu'on appelle une certaine richesse spécifique. En témoigne simplement quelques chiffres. Je prends l'exemple des chauves-souris, par exemple. 22 espèces, c'est-à-dire qu'on a tout de même les deux tiers des espèces de chauves-souris françaises. Deuxième chiffre, simplement pour illustrer, pour ce qu'on appelle les odonates, c'est-à-dire les libellules, nous avons 56 espèces qui représentent tout de même 50% de toutes les espèces qui vivent en France. Et pour les oiseaux nicheurs, donc 170 espèces, ça représente 60% des espèces nicheuses de France.
Alors sur ce territoire qui fait à peu près 11 000 km², l'agriculture représente combien? 60-70%?
Oui, c'est ça. En fait, c'est simple. C'est l'agriculture, c'est un peu plus 70%. L'agriculture intensive, si on rajoute l'urbanisation, il reste 10% du territoire pour la nature, enfin vraiment la vraie nature. Et donc ça explique l'autre constat que nous avons fait, c'est-à-dire que quand on regarde en fait pour les oiseaux, par exemple, s'ils sont inscrits ou non sur des listes rouges en matière de menaces, on s'aperçoit qu'on a 2/3 des espèces qui sont sur les listes rouges des espèces menacées. Et donc ça veut dire qu'on a une richesse très importante, mais sur des tout petits territoires, donc sur ces fameux 10% de territoires qui restent. Voilà c'est le grand constat de 2010 sur la biodiversité.
Alors on va voir maintenant ce que l'on peut faire, mais déjà on va le voir avec un exemple qui est tout à fait intéressant, parce que, tenez, on va partir dans cette commune qui s'appelle Grande-Synthe, qui est au bord de la mer, on n'est pas loin de Dunkerque, et écoutez ce maire. Si je suis un habitant de Grande-Synthe, je vais trouver un espace vert à combien, je ne sais pas, de mètres ou de kilomètres de chez moi ?
Moins de 300 mètres. 95% de la population est à moins de 300 mètres d'un parc ou d'un espace naturel. Ouais. Ça aussi, c'est une manière de voir la ville différemment. Pourtant, on a une densité urbaine qui est intéressante, mais quand on parle de ville intense aujourd'hui, ça effraie souvent les habitants. Parce qu'on va dire, oui, on va faire des tours, ça va être inhumain, des grandes HLM. Et en fait, on peut faire des bâtiments où on a une densification de la population, mais si on préserve des espaces pour aller jouer avec ses enfants, aller se balader comme ici, dans une ceinture à côté. Donc on n'a pas besoin du coup d'aller construire à la campagne et de participer malheureusement à ce fléau qui est la périurbanisation.
Alors à Grande-Synthe, on s'imagine bien qu'on est surveillé de près par les cheminées des usines. Vous avez ArcelorMittal qui est juste à côté, Total n'est pas loin, Lafarge, Gravelines. Et pourtant, ben nous sommes dans une bulle verte. Ouais. On est dans un ancien village de maraîchers. Il faut imaginer donc les moines qui ont gagné sur la mer, qui ont fabriqué des polders. On était au Xe siècle. Et puis après, donc les maraîchers ont alimenté Dunkerque les communes voisines. Et puis ça a été la guerre. 1944, au mois de septembre, le village est complètement dynamité. Et après, on a quand même recommencé à faire du maraîchage. Et puis dans les années 60, on s'est dit, tenez, il y a une passe qui est très intéressante pour les gros bateaux qui portaient du minerai dans leur ventre. Et là, donc, est né Arcelor, est né Usinor. Et donc, ça a été vraiment l'essor de la ville qui était extrêmement important, parce qu'il y avait une taxe professionnelle qui était forte, donc une redistribution sociale aussi qui l'était. Mais quand même, il y a un truc qui manquait, un bout de nature. Et à Grande-Synthe, eh bien, Damien Carême avait un père qui était lorrain, et qui était surpris de ne pas voir d'arbres, de forêts. Donc ça l'a incité à planter. Et puis donc son fils, donc aujourd'hui maire de Grande-Synthe, Damien Carême, bah, il continue, parce qu'il se dit que les ouvriers, bah, on l'a bien compris, doivent aussi avoir donc ce petit coin de verdure. Donc bah, il met les moyens, hein, 2% de son budget, 13 personnes à plein temps. Et puis donc on va voir comment ça se passe dans cette ville en transition. Cet homme s'est dit une chose très simple, on n'a plus de patrimoine, alors on va le fabriquer et ce sera la nature.
Voilà, regardez, on est à quelques centaines de mètres du centre-ville et on a des poules d'eau et des canards sur les canaux du Courguin. C'était important, cette volonté de remettre les cours d'eau dans un quartier en termes d'aménagement. On a un coin qui est paisible, qui se prête à la balade et qui est en même temps un vrai lieu de développement de la biodiversité.
Alors vous avez fait aussi donc un vrai choix politique, c'est-à-dire que vous avez misé sur la biodiversité et justement sans du tout oublier l'aspect social, parce que c'est bien pour ça que vous le faites.
Exactement, mais j'ai continué parce que la biodiversité, le titre que nous avons obtenu la dernière, c'est 40 ans d'histoire. La biodiversité, elle ne s'impose pas du jour au lendemain. C'est long, il faut que la nature reprenne ses droits quelque part. Et quand on voit certaines anciennes photos de Grande-Synthe, et là où nous sommes aujourd'hui, si je vous présente la photo il y a 20 ans, c'était nu, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas d'arbustes, il n'y avait pas de haies, il n'y avait pas de lieu de balade.
Alors, on est, pour resituer un peu le décor, donc on a ArcelorMittal qui est derrière. Je ne sais pas combien on est d'usines Seveso, mais enfin, c'est assez incroyable. 14 usines Seveso, donc ici. Et en fait, vous avez fait une sorte de ceinture verte pour être à l'abri à la fois du vent et du bruit.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de circulation qui passe autour. Donc voilà, ces ceintures vertes, c'est des vraies barrières naturelles, c'est des murs anti-bruit naturels qu'on peut faire. Et c'est aussi, on quitte l'usine et on se retrouve chez soi. Enfin, on est entouré de verdure, on est entouré de végétation et c'est quand même.
Mais très très vite en plus, il y a une coupure.
Ah oui, à la sortie de l'usine. Et on a encore amplifié ces phénomènes il y a 4 ans, puisqu'on a replanté 80 hectares d'arbres et constitué des zones humides juste entre l'usine et la ville.
C'est un espace.
Oui, c'est un choix. Et partout où on pourra le faire, on le fera, on continuera de le faire. Pour nos populations, c'est important, non seulement pour leur bien-être, c'est pas parce qu'on est ouvrier, qu'on est malheureusement demandeur d'emploi, qu'on n'a pas le droit de vivre dans des bonnes conditions, mais aussi c'est un vrai apport pour eux, et ça peut être un apport économique, parce que la biodiversité, c'est aussi se poser la question du logement, c'est la ville intense, et c'est donc, et on refait des opérations urbaines où on est sur des baisses de charges énergétiques, donc ça permet à ces habitants de regagner du pouvoir d'achat. Et puis à côté, on leur fait des espaces verts pour qu'ils puissent continuer à promener leurs enfants, à discuter, à bénéficier d'un espace autour d'eux qui soit qualitatif. C'est quelque chose qui est mené depuis les années 70-75 sur cette ville-là, et on a amplifié ce travail-là parce que le politique, il a cette responsabilité d'anticiper sur l'avenir. Et anticiper sur l'avenir, c'est de se dire, ben voilà, on a besoin de la biodiversité et c'est en ville qu'elle va se développer aussi. Et voilà, il y a plein de collectivités aujourd'hui qui nous rendent visite pour voir comment on travaille. Quand la ville a décidé la gestion différenciée de ses espaces verts, ses espaces publics.
La gestion différenciée.
C'est ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour les plantes dans tous les espaces naturels. Et donc, il y a énormément de collectivités. J'allais dire, il y en a une en moyenne par semaine qui vient visiter comme la manière de travailler. On peut servir d'exemple. Et la réintroduction d'espèces animales, d'espèces végétales qu'on voit apparaître, parce que les services font un inventaire très précis de ce qu'on peut découvrir à Grande-Synthe, nous montre que là-dessus, on est sur la bonne voie.
Alors vous-même, vous êtes quand même assez naturaliste au départ ou pas ?
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais quand on se penche sur ça, en détail, franchement, on se dit qu'on a une grosse responsabilité, les élus politiques. Les États peuvent décider ce qu'ils veulent. Si les élus locaux ne sont pas d'accord et ne décident de ne pas les mettre en œuvre, on n'y arrivera pas. C'est les élus qui décident l'aménagement du territoire, de faire un espace vert ou de faire une zone commerciale ou de faire du bâtiment. C'est les élus qui décident en matière de transport. C'est les élus qui décident en matière de logement. C'est eux qui sont au cœur de beaucoup de décisions, en fait. Donc, il est de notre responsabilité d'y aller. Et moi, je suis inquiet de l'état de notre planète. Je suis inquiet de savoir quel je suis grand-père depuis 3 semaines et de savoir quel espace je vais laisser à ces petits-enfants qui arrivent derrière et les générations futures. Alors il ne suffit pas de le déclamer, il faut le mettre en œuvre.
Là, je vois, attendez, on voit des prairies avec... C'est peut-être des fauges différentes qui ont lieu ici.
Oui, c'est ça. Il y a des tontes de pelouse normales, mais derrière, il y a plein d'espaces qui sont comme ça et que la population maintenant comprend pourquoi on ne fauche pas partout de la même manière. Parce qu'il faut laisser des espaces comme ceux-là pour le développement des insectes et de toute cette chaîne alimentaire qui est nécessaire. Et chez nous comme ailleurs. Donc voilà, il y a aussi des noues paysagères. On aurait pu mettre des tuyaux dans le sol, mais les eaux de pluie, on les récolte dans des noues à l'air libre pour aussi développer une forme de biodiversité.
C'est voilà. Que vous avez des espèces qui reviennent aussi.
On a énormément d'espèces qui reviennent de toutes sortes, que ce soit des oiseaux nicheurs, et les oiseaux nicheurs, bah, c'est des insectes qui nourrissent, c'est la biodiversité qui fait que ces insectes sont présents et que donc c'est la chaîne alimentaire de ces oiseaux nicheurs-là. On a des grenouilles, on a même des chauves-souris. On a repéré il y a peu de temps une espèce de chauve-souris qui avait pu être recensée dans notre région depuis très longtemps.
L'habitant, c'est très important quand même. Parce qu'en fait, bon, nous, on est sensibilisés. Maintenant, il y a quand même plus de 20 000 habitants sur la ville. Eux, il faut les sensibiliser aussi. Ils ont tous des jardins. Maintenant, il faut les sensibiliser à ces notions de biodiversité. Leur montrer que l'abeille, c'est pas néfaste dans un jardin, qu'une araignée, elle a sa place aussi dans le jardin. Il faut qu'on les accompagne dans leur jardin. Il faut leur dire comment on va travailler avec eux pour mettre des nichoirs à hirondelles. Surtout, ce qui est important, c'est de montrer qu'en fait, il y a plusieurs types d'habitats. On a des milieux humides, on a des milieux de prairies, des milieux boisés, et à chaque fois on a des strates différentes. Au verger, on a 600 mètres de haies, et toutes les haies, toutes les plantes qui sont en partie de la haie, elles ont été associées non seulement pour mettre en valeur en fait le fruit naturel, jusqu'à des fruits décoratifs, mais aussi des plantes qui attirent des auxiliaires, voire des premières plantes qui sont attaquées par des parasites et qui amènent des premières colonies, on va dire, de coccinelles. Et toute l'association des plantes qui a été faite au verger, a été faite de manière à fixer tous les prédateurs, de manière à ce qu'ils se fixent là et puis qu'ils puissent protéger le verger des éventuelles attaques.
Là aussi, volonté conseil municipal pour dire, attendez, tel endroit, on ne va pas le geler. Donc comment on fait avec les gens qui voudraient vendre des terres ?
C'est pas facile, il faut l'expliquer, mais il faut aussi que ces personnes-là ne soient pas lésées dans l'opération. J'ai par exemple en centre-ville 4 hectares de zones maraîchères qui sont là depuis très longtemps.
Ouais.
Et je sais que des propriétaires souhaitaient vendre le terrain parce qu'ils arrivent en fin d'activité et pensaient que cette zone allait être, comme on est en centre-ville, en zone constructible. Donc le prix du terrain n'est pas le même s'ils le vendent dans zone constructible qu'en zone maraîchère. Dans le plan local d'urbanisme, j'ai demandé à ce que cette zone soit conservée en état naturel, soit pour faire des jardins familiaux, soit pour continuer à faire du maraîchage. Du coup, il va y avoir un manque à gagner pour ces maraîchers-là. Donc je suis en train de regarder comment on peut les dédommager parce que c'est un choix municipal. Ils n'ont pas assumé ces choix municipaux. Donc voilà, moi, la volonté politique, c'est de garder ces espaces comme des espaces naturels. Alors, d'autant plus qu'on est passé au 100% bio dans les cantines scolaires dès la rentrée, qu'on a du mal à se fournir localement, et que donc je souhaite que les productions maraîchères locales puissent servir à la confection de ces repas-là.
Alors maintenant, on imagine qu'il y a quand même une adhésion de la population, c'est-à-dire qu'ils ressentent, ils se sentent, il y a quand même un bien-être maintenant avec lequel ils adhèrent.
Ils sont extrêmement attachés à cette particularité qu'a la ville. Je pense que sur l'agglomération dunkerquoise, on est cette ville où 127 mètres carrés d'espace vert par habitant.
Ah oui.
Voilà. Donc on est la seule commune dessus. On doit détenir un des records en France dans des villes, hein, ouais. Quand je ne parle pas de village. Et la population est très attachée à ça. Si j'ai le malheur un jour de construire sur un espace vert, les gens font des réflexions. Donc il faut que je travaille en compensation. On a dû en centre-ville, malheureusement, abattre quelques arbres. Du coup, on en fait un verger en centre-ville. On a compensé les choses parce que c'est pour nous une réflexion. J'ai bougé un projet de petit centre commercial parce que les services m'ont dit attention, là il y a une orchidée sauvage qu'on a trouvée.
D'accord.
Et que donc parce que c'est un terrain sableux et que si vous construisez là on va perdre cette espèce, donc du coup on a déplacé le projet, on est allé le mettre ailleurs. Ça va jusqu'à là, mais ce sont des choix politiques forts, mais c'est une vraie volonté. Et dans une ville où il y a 64% de logements sociaux, qui est un des taux les plus importants de région voire de France, eh ben voilà, on arrive quand même à avoir un équilibre et une vie très équilibrée dans cette ville.
Qu'est-ce qui vous plaît profondément dans cette action aujourd'hui? Vous êtes élu, vous êtes au service de la population, c'est votre boulot, c'est pas simplement que vous assurez une future réélection, mais qu'est-ce qui vous plaît dans le travail qui est effectué?
C'est peut-être d'être dans le bon sens. Quand on analyse action par action, ce qu'on fait dans le renouvellement urbain, où on fait aujourd'hui du bâtiment basse consommation, alors que ça vient d'être la norme, nous on en livre déjà des bâtiments comme cela, où on se dit qu'on fait un écoquartier passif, où on se dit qu'on va refaire des pistes cyclables avec les habitants, où on se dit qu'on a la nature en ville, on a anticipé, il y a eu cette anticipation sur les besoins qui seront indispensables si on veut arriver à changer le cours des choses sur le réchauffement climatique, sur la préservation de la biodiversité. Et tout ça au service quand même de l'habitant, et l'habitant qui est socialement en difficulté. Donc tout, pour moi, tout doit être centré dessus, et tout est centré autour de ça. Donc voilà, c'est comment on arrive à concilier les deux. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et surtout, que les habitants se soient appropriés complètement cette dynamique-là. Pour moi, c'est pas facile, et c'est pas... Enfin, voilà, je suis très heureux qu'ils s'investissent, je suis très heureux qu'on accueille 8000 enfants au centre d'initiation à l'environnement tous les ans. Je suis très heureux que quand on fait une cueillette de pommes au verger pédagogique, il y a 500 grands Saintois qui viennent cueillir des pommes dans le verger bio. Que quand on fait les cantines scolaires, il y a 300 parents qui viennent aux réunions d'information pour savoir c'est quoi le bio. Quand on fait un débat dans le Varlin avec un spécialiste de l'agriculture biologique, que les gens répondent. Voilà, je pense que malgré les difficultés sociales, il y a cette prise de conscience de la population. Et ça, c'est important.
Eh bien, cet homme-là nous fait du bien. Alors, je vous dis pas que c'est la majorité de l'espèce, mais donc merci à Damien Carême, à Yves Castéquer aussi, qui est responsable jardin de la ville, et puis Edith Denne, qui s'occupe de la biodiversité. Petite réaction peut-être, Jean-Marc Vallet, vous êtes directeur du Conservatoire botanique, je le rappelle, par rapport à cette action.
Oui, alors ce qui est intéressant à Grande-Synthe, c'est qu'ils ont parfaitement compris le concept de gestion différenciée. C'est-à-dire qu'ils ont réouvert des milieux, c'est ce qu'ils ont expliqué.
Oui.
C'est-à-dire que là, en fait, ils favorisent des espèces qui sont très menacées, hein, qui ne supportent pas une couverture trop dense. Et puis ensuite, ils ont exporté. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait baisser les niveaux trophiques des sols. Donc ils ont permis à des espèces qui supportaient pas des excès, par exemple, de richesse, des sols, de nitrates, de réapparaître. Et sur Grande-Synthe, il faut savoir qu'on a deux espèces qui n'avaient jamais été vues en matière de flore. Ça a permis de faire apparaître une espèce spontanée, hein, qui est un anacanthis, en fait, qui est une orchidée sauvage, qu'on a vu apparaître là-bas. Et puis, ils ont renforcé une espèce d'orchidée très rare également, l'orchis bouc. Chez nous, c'est une espèce tout à fait remarquable. Et donc, grâce à ces actions de gestion, ça permet donc de renforcer les populations de ces orchidées.
Voilà. Et puis on verra aussi avec vous, peut-être tout à l'heure, les animaux qui ont pu revenir. Et nous allons, dans quelques instants, pouvoir replanter de la forêt. Oui, 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 mais ce sera juste après. Bernard Lavilliers.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles. Tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons non sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge.
Lavilliers sur France Inter, CO2 mon amour, nous sommes dans la région Nord-Pas-de-Calais, nous parlons de biodiversité et Nord-Pas-de-Calais, mais aussi évidemment sociale, parce que donc tout est lié, on l'a bien compris en écoutant donc ce reportage à Grande-Synthe. À nos côtés, ils ne sont pas encore exprimés, mais ont écouté tout à fait attentivement Bruno Vidalba, qui est maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lille, donc vous intéressez à la politique. Et peut-être petite réaction par rapport à ce que vous avez entendu, et puis comme vous travaillez quand même sur ce laboratoire, on va dire, du développement durable qu'est la région Nord-Pas-de-Calais, que pouvez-vous nous dire ?
Alors, juste une petite réaction par rapport à l'expérience de Grande-Synthe. C'est effectivement, c'est exemplaire par rapport à ce qui se construit au niveau des relations avec les habitants et la biodiversité. Il faut quand même rappeler que Grande-Synthe est un jet de pierre de la centrale nucléaire de Gravelines.
Tout à fait.
Donc, autrement dit, il y a quand même une réflexion à avoir sur la compatibilité des micro-expériences, finalement, qui peuvent être très bien, mais en même temps, les réinsérer dans une réflexion plus générale sur les logiques de développement territorial. Mmh. Et là, c'est là où on voit effectivement deux histoires se mettre en place. La première histoire, c'est l'histoire de la biodiversité, que Jean-Marc nous a rappelé, avec laquelle on est en train de renouer finalement, difficilement, puisqu'on a un gros déficit par rapport à ça. Et puis il y a la deuxième histoire qui est beaucoup plus importante, qui est l'histoire du développement humain. Et effectivement, même dans vos reportages, depuis le début de l'émission, on voit toujours qu'on met en parallèle le souci de la biodiversité, et tout de suite après, on va rappeler le souci de la condition sociale. Parce qu'effectivement, dans notre territoire, on est marqué par cette relation au travail, cette relation à la production, et ça reste un élément déterminant.
Ce qu'il faut absolument avoir en tête, c'est que lorsque l'on voit, quand on est ouvrier, que l'on voit une cheminée qui fume, ça veut dire, d'accord, on pollue l'air, on pollue les sols, mais ça veut dire qu'on a du travail. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, peut-être dans la mentalité.
Oui, mais c'est peut-être une vision d'un imaginaire, finalement, du politique qu'il faut retravailler. C'est-à-dire, c'est un imaginaire qui est basé sur un monde infini, sur un monde en développement continu. Et effectivement, la question de la biodiversité essentielle, c'est la question de l'irréversibilité. Une fois qu'une espèce disparaît, c'est terminé, on ne pourra plus jamais négocier l'existence de cette espèce-là. Autrement dit, là où dans le contrat de travail, finalement, dans la relation avec le développement, on a toujours une possibilité de négocier. On va innover technologiquement. Mais avec les espèces naturelles, on ne peut pas négocier comme ça.
Bruno Vidalba, vous avez créé un ouvrage qui s'appelle « Appropriation du développement durable ». C'est aux presses universitaires du Septentrion. Est-ce qu'il y a une difficulté ou non à s'approprier la nature dans cette région Nord-Pas-de-Calais ?
Oui, on a vraiment une difficulté en raison même de la question de la biodiversité. C'est son invisibilité. Autant on peut, effectivement, sur la question sociale, voir les conditions fortes d'inégalité sociale. C'est visible physiquement. Pour la question de la biodiversité, c'est beaucoup plus difficile de construire une relation avec ça. Alors, on va construire des procédures de développement durable. On va tenter de mixer les deux choses. Mais reste, effectivement, qu'on a un déficit de représentation de la nature.
Et même dans Bienvenue chez les Ch'tis, vous l'aviez pointé. Ça,
voilà, Bienvenue chez les Ch'tis, ce qui est intéressant, c'est que c'est censé représenter l'identité régionale, finalement. Et qu'est-ce qu'on on s'aperçoit que la nature n'est représentée que sous la forme de la contrainte climatique. Il pleut tout le temps. Et le seul moment où ils ont un rapport avec la nature, c'est un moment où ils vont s'amuser avec la nature. Ils sont sur la plage, ils font du char à voile. Autrement dit, il n'y a pas de considération en tant que telle de la nature. Si vous tourniez un film Bienvenue en Alsace, il y a un moment donné où nécessairement vous allez voir l'Alsacien se balader dans la nature, communier avec, au bord du Rhin, etc.
D'accord. Bon, et donc c'est le Nord. Mais et en même temps, pour voir les choses, eh bien, on fait et on lance aussi une belle opération. Emmanuel Caux, donc, est avec nous. Il est à la fois élu mais président des espaces naturels régionaux. Et vous lancez une opération, moi je trouve très intéressante, c'est en gros reboisons le Nord-Pas-de-Calais. Alors il faut dire qu'il y a 90 000 hectares. Vous espérez peut-être, alors à terme, je ne sais pas, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, essayer de doubler cette superficie. Mais qu'avez-vous voulu faire profondément? Parce que c'est quand même la région la moins basée de France, Emmanuel Caux.
Et de très loin, enfin, je ne voudrais pas noircir le tableau de Jean-Marc Vallée tout à l'heure, mais on a encore des indicateurs qui sont rouges. La surface boisée du Nord-Pas-de-Calais, c'est 8% contre une trentaine de pourcents au niveau national. Donc effectivement, on est en grave déficit. On a vidé le coffre un peu dans cette région. Donc l'objectif, c'est de recapitaliser de manière naturelle. De recapitaliser, non pas pour replanter, même si ça ferait beau dans le paysage, mais de récupérer tous ces services que nous offre la nature, qui plus est gratuitement, pour peu qu'on s'intéresse à elle. Et sur tous les plans, je rejoins Bruno Villalba sur le côté social, il y a un lien évident, important, entre les inégalités sociales et les inégalités écologiques. Et donc c'est le plan forêt, ce reboisement massif, petit à petit, qui requestionne notre modèle d'aménagement du territoire, qui requestionne notre modèle économique, qui requestionne notre modèle agricole, il est fait pour viser toutes les cibles, qu'elles soient sociales. Par rapport à la santé, il y a un lien santé-environnement, par rapport aux espaces de détente, de loisirs, de ressourcement, de culture, de découverte, mais aussi en termes d'économie. C'est fait pas partie du cliché dans leur Pas-de-Calais de penser qu'on est une région forestière, vu qu'on a la plus petite surface de France. Quand bien même nous doublierons, on faisait doubler la forêt, on sera encore les derniers. Pourtant, on a une filière forêt-bois qui crée 28 000. On a plus de 28 000 emplois dans la région sur cette filière. C'est l'industrie automobile qui est vraiment aidée, qui est au cœur de la société. Ça ne fait que, entre guillemets, 50 000 emplois. Donc on voit bien là, si on fait le bon choix, on peut créer un nombre d'emplois considérable. Qui plus est dans cette période de changement climatique, où il faut raisonner transport, il faut raisonner matériaux, éco-matériaux. On a là une source de bois matériaux pour la construction, pour la réhabilitation, et une source de bois énergie considérable. La difficulté, c'est le temps. Un arbre, ça met des années et des années à pousser, beaucoup plus de temps qu'un rond-point, un lotissement, ou que sais-je encore.
Ça, de la graine de rond-point, on en a
voilà,
eu.
Hein, donc il faut anticiper. Alors c'est un projet qui est sur une génération, qui est sur deux générations. La prochaine génération modulera peut-être ce plan forêt, les objectifs de ce plan forêt, le préservera, l'accentuera. On ne sait pas, on ne peut pas dessiner exactement ce que sera le monde dans le Nord-Pas-de-Calais d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. Mais ça s'anticipe. Et pour l'instant, ce plan forêt, il vise l'urgence, comment on va protéger notre eau, comment on va conforter les massifs existants.
On va rappeler que les forêts nous apportent des services écologiques que nous connaissons, mais c'est toujours bon de les rappeler, au-delà du stockage de CO2 et puis du relargage d'oxygène, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que ça va aussi, c'est une éponge, donc ça va aussi éviter des inondations.
Ça évite les inondations. Il ne faut pas oublier non plus que le sol, c'est d'abord de la biodiversité. Ce qui a formé les sols, c'est de la biodiversité, dont de la forêt. Et ça, c'est aussi un gros capital.
Pardonnez-moi, mais les mines, c'est-à-dire qu'en fait, les mines, c'est un peu des forêts à l'envers.
Voilà.
Donc c'est de la décomposition.
On passe du pays de l'or noir au pays de l'or vert. C'est-à-dire qu'on a utilisé cet arbre mort et noir qui était le charbon. Maintenant, on essaye non pas de refaire du charbon, mais l'énergie, elle, pour le coup, renouvelable.
Et puis, sans parler évidemment du côté climatiseur des forêts, ce qui n'est pas plus mal en période de réchauffement climatique. Alors maintenant, quand même, 70%. de surface agricole.
72.
Oui. On est dans de l'intensif. On est dans du lourd, là. Bon, donc, on va le prendre sur quoi peut-être le terrain pour planter les arbres.
Alors, dans un premier temps, il y a une urgence. On doit protéger l'eau. Alors, on n'est pas obligé de la protéger seulement avec la forêt. On peut faire aussi avec l'agriculture biologique. On doit conforter les massifs existants, on doit les relier, on doit les remailler avec des corridors boisés, avec des connexions biologiques. On a déjà des terrains artificialisés ce matin dans l'opération de sensibilisation, de lancement de sensibilisation à la forêt en Nord-Pas-de-Calais. On l'a replanté sur un aérodrome, en plein cœur de la métropole, en plein cœur d'une population de plus de 1 million d'habitants, plus du quart de la population du Nord-Pas-de-Calais.
Rassurez-moi, pas sur les pistes, hein, quand même, vous avez
pas... Non, pas sur les pistes. D'accord. Pas tout de suite. Okay. Et en même temps, l'agroforesterie. Alors, l'agroforesterie, c'est pas une forêt, mais c'est une capitalisation, une recapitalisation naturelle, comment on plante des arbres, comment on fait revenir de la biodiversité dans les champs. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un champ sans aucun relief, mais au contraire, on en a besoin par rapport à la gestion de l'eau, par rapport aux micro-éléments qu'on peut apporter, par rapport au brise-vent. Enfin, c'est un nombre d'avantages que les arbres procurent et qu'on a oublié, on a un peu perdu ce contact.
Ce qu'on entend, c'est que par rapport à nos enfants, parce que là, vous l'avez très bien dit, on est sur du temps long dans ce monde de court-termisme, c'est qu'en fait, vous voulez leur laisser plutôt une rente qu'une dette.
Voilà, c'est peut-être en cela que ce projet est assez rare, c'est qu'on est effectivement en train de léguer une rente plutôt qu'une dette. Voilà. Après, dans 10-20 ans, la génération suivante fera peut-être autre chose, mais en tout cas, bénéficiera déjà de ce que nous aurons semé et planté aujourd'hui.
Bruno Villalba, comment vous observez ça ? C'est-à-dire que comment cette question vient perturber, on va dire, les réflexions classiques ? Parce que là ça bouge. Hein,
c'est... Ouais. C'est une matérialisation de ces enjeux qui est extrêmement intéressant. Lorsque vous plantez un arbre, ce n'est pas simplement effectivement un bout de bois que vous allez mettre en évidence. C'est une manière de se comporter avec la nature, d'une manière générale, mais aussi avec les relations sociales qui sont accompagnées de ce simple bout de bois. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce qu'a dit Emmanuel Coe, c'est que finalement, quand on construit une politique publique à partir de l'enjeu environnemental, et pas simplement en vue d'un gain économique qu'on attend. Hein. Quand on construit une politique environnementale à partir de cette question-là, une politique publique à partir de la question environnementale, c'est que finalement, vous laissez beaucoup plus de possibilités de choix dans vos possibilités politiques. Vous laissez finalement plus de choix possibles pour les générations futures. Au détriment d'une vision où vous allez focaliser simplement sur le caractère purement opérationnel, purement de rentabilité économique, où vous enfermez dans des tunnels de décision. Et finalement, au bout d'un moment, vous êtes condamné à renouveler vos décisions. Planter des arbres, c'est effectivement laisser beaucoup plus d'opportunités pour d'autres possibilités politiques.
Mais écoutez, nous, on va s'offrir aussi d'autres opportunités, mais musicales cette fois-ci. C'est Holly Cook, notre troisième disque choisi par Jean-Baptiste Audibert.
I have got the buzz.
Eh bien, c'était Holly Cook, The Very Night sur France Inter. Nous sommes dans cette région, dans Pas-de-Calais, bon, évidemment, qui n'est pas gâtée, on l'a bien compris. Il y a une extraordinaire association, Nord Écologie Conseil, qui fait, qui nous rappelle pas mal de choses, avec Alfred Leclerc qui s'en occupe. Par exemple, on en a parlé, les l'eau et les sols sont parmi les plus pollués. Dernière en agriculture bio, région donc extrêmement fragmentée, il y a plus de 15 000, on va dire, fragments avec des réseaux routiers donc extrêmement. Donc on a beaucoup de points noirs environnementaux. J'ai dit aussi, santé, environnement, c'est quand même extrêmement gratiné. Et malgré tout, qu'est-ce que l'on voit quand même en matière de biodiversité réapparaître, Jean-Marc Vallet, je rappelle, un directeur du Conservatoire botanique, directeur de l'Observatoire régional de la biodiversité. Il y a quand même des choses qui réapparaissent, là.
Alors oui, avec tout de même des bonnes nouvelles. Depuis à peu près un peu plus de 10 ans, nous avons vu réapparaître des populations de phoques. En plus de ça, les deux espèces de phoques, le phoque gris et le phoque vaumarin. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. C'était des animaux qui étaient pourchassés et maintenant qu'ils sont protégés, ils reviennent. Le marsouin également en mer revient de façon significative. Et pour la flore, sur certains secteurs qui sont gérés par le Conservatoire d'espaces naturels, il y a eu des techniques, ce qu'on appelle des techniques d'étrépage. Donc on enlève une partie du sol. Et là, nous avons eu la bonne surprise de découvrir que deux espèces de ce qu'on appelle les rhincosporas sont réapparues. Ça avait totalement disparu depuis plus de 30 ans de la région Nord-Pas-de-Calais. Et nous avons également vu réapparaître le millepertuis des marais, qui là aussi avait disparu depuis à peu près 40 ans. Et donc ça, ce sont des bonnes nouvelles.
Emmanuel Caux, alors sans répondre évidemment à ce problème extrêmement vaste de santé-environnement, je sais que vous avez lancé un plan régional santé-environnement, mais une fois qu'on a fait les constats, qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce que c'est des... on accompagne les habitants? Qu'est-ce que l'on peut faire?
La réponse ne se situe pas en un seul objet, une seule politique. On est obligé d'être sur tous les fronts. Et on voit la complexité des liens en santé-environnement. Non pas qu'il n'y a pas de lien, on sait qu'il y a des liens, mais ils sont parfois compliqués à visualiser, à mettre en évidence. Donc on est obligé d'être sur tous les fronts. On a vidé le coffre ici dans la région, donc on renature.
Metal Europe est un symbole, quoi.
Voilà, Metal Europe est un symbole. Et c'est vraiment le syndrome dans lequel on vit. C'est-à-dire que c'était un peu, dans cette région-là... il faut travailler, tant pis pour les conséquences. Donc il était très difficile de parler de l'environnement autour de Metal Europe. Aujourd'hui, hélas...
On préférait à la limite mourir malade, mais avec du boulot.
Voilà, c'était un peu ce syndrome-là. Aujourd'hui, hélas, hein, on peut le regretter, mais Metal Europe est parti. Il est parti avec la caisse, en laissant des gens malades, en laissant des terres polluées et des biens immobiliers pour ceux qui en avaient, qui ne valent plus rien. Donc on est obligé d'être sur tous les fronts, de re-questionner l'aménagement du territoire et en re-questionner l'urbanisme, re-questionner le modèle de développement et agricole.
Bruno Vinalba, peut-être sur ce thème.
Oui, c'est la question de savoir quelle place ont ces politiques dans l'ensemble des priorités régionales. Si c'est simplement exemplaire sur quelques éléments significatifs, c'est bien. Mais est-ce que ça modifie profondément la relation qu'on va établir avec l'environnement? Est-ce que finalement ça met fin définitivement cette dualité homme-nature? On pourrait être un tout petit peu plus nuancé et un petit peu moins optimiste.
Oui. Je vous propose, moi, de retrouver, puisqu'elle est enterrée aujourd'hui donc à Cluny, une femme que vous connaissez, c'est Danielle Mitterrand, qui s'est énormément bagarrée sur l'eau, donc présidente de France Liberté, et puis qui avait créé la campagne Les Porteurs d'eau pour l'accès à l'eau. Donc je l'avais rencontrée il y a 2 ans, et voici ce qu'elle nous disait sur l'eau.
D'abord, ce n'est pas un besoin, c'est un droit. Et ça, c'est le grand dilemme. Les gouvernements ne veulent pas que ce soit un droit. Et d'ailleurs, ils ne le signent pas. Toutes les propositions qui étaient faites dans ce sens, on les compte sur les doigts de la main, les gouvernements qui l'ont fait. Il y a l'Uruguay, il y a l'Équateur, il y a la Bolivie. Pourquoi ils ne veulent pas que ce soit un droit? Parce qu'un droit, un État est tenu de le respecter. Et il y a pour ça des rétorsions possibles pour qu'ils le respectent. Tandis qu'un besoin, nul n'est tenu de le satisfaire s'il n'en a pas les moyens. Ils prétendent que c'est un besoin, donc, et s'il n'est pas satisfait, ce besoin, c'est parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Or, ils en ont les moyens, ils peuvent en faire un droit. Et ça, on le fait à travers un grand mouvement qui s'appelle les porteurs d'eau. Et les porteurs d'eau, ce sont des gens qui ont accepté, qui ont adhéré à la charte des porteurs d'eau, qui explicite que l'eau n'est pas une marchandise, que c'est un bien commun du vivant, qui est un élément constitutif de la vie, c'est la vie, on ne vend pas la vie. L'eau n'a pas de prix, dans les deux sens du terme. Elle n'a pas de prix parce que la vie est sacrée, et elle n'a pas de prix parce qu'elle n'est pas monnayable. Donc l'eau n'est pas une marchandise. Et elle doit être reconnue dans les constitutions, l'accès à l'eau comme un droit imprescriptible.
Ce qu'on va vous dire, c'est qu'en revanche, la dépollution et la distribution, elle, n'est pas forcément gratuite.
Mais d'abord, la dépollution, il n'y a qu'à pas polluer, comme ça on n'a pas à dépolluer. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de problème d'eau. Je pouvais me promener dans la campagne, je voyais une source, j'avais soif, je pouvais boire à la source. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire. On ne sait pas du tout ce que la nappe phréatique nous réserve. Quand on fait venir un Indien de Colombie, un Cogis, et on lui fait visiter Paris, on trouve que c'est merveilleux, c'est beau, bien sûr, on est fiers de Paris. Puis, il se penche sur l'eau de la Seine et il nous dit avec un air dramatique, « Mais elle est morte, votre eau. Comment une ville va continuer à vivre avec une eau qui est morte ?»
Alors, par rapport à l'agriculture, parce qu'on sait que 70% à peu près de la consommation passe en agriculture avec énormément d'évaporation, comment on peut réorienter cette affaire-là ?
Mais pourquoi 70% de l'agriculture ? Ça a commencé d'ailleurs avec le remembrement. Si aujourd'hui on a tellement d'inondations, c'est pas innocent non plus. On y est vraiment pour quelque chose. Et pourquoi faire ces grands espaces ? Ces grands espaces pour faire de la surproduction. L'argent a rendu fou l'humanité. C'est de la folie furieuse.
Daniel Mitterrand, vous voyez heureusement quand même des gens qui bougent, qui résistent par rapport à ça. Quels exemples pouvez-vous nous donner ?
Bien, aujourd'hui, il faut se reprendre. C'est le privilège de l'homme qu'il est capable d'évoluer. Eh bien, il faut qu'il se reprenne et qu'il se dise que j'ai adulé pendant des décennies et décennies. C'est la démesure du capitalisme, ce qui fait que le capitalisme va s'effondrer de lui-même. Mais il faut bien une alternative. Et il y a des millions de gens qui travaillent à cette alternative.
Merci, madame. Et donc, ici, bah, vous l'avez compris, il y a des gens aussi qui bougent pour accéder à cette alternative. Un grand merci donc à nos invités, donc à Jean-Marc Vallet, à Emmanuel Co, à Bruno Villalba, à l'association donc Écologie Nord et Nord Écologie. Et puis, je tiens à vous citer aussi le site de tourismenord.fr ainsi que j'adorelenord.com. Et puis, vous signalez également que le 11 décembre, alors là, c'est pas complètement de l'écologie hein, quand même, mais vous avez la braderie de l'art à Roubaix. On connaît la grande braderie de Lille. Et là, bien en fait, vous avez en fait des designers, des créateurs qui essayent d'offrir pour pas cher donc un objet, mais qui vient quand même du déchet. Qui vient alors, soit ils l'ont piqué chez Emmaüs, soit ils l'ont pris ailleurs. Ils redonnent une nouvelle vie donc à ces objets. Donc c'est la braderie de l'art de Roubaix qui sera le 11 décembre. Un grand merci à nos amis de France Bleu Nord. Oui, à Timothée Couteau qui est à la technique. Sans oublier à Paris, Sophie Moreno et Grégory Wallon. Stéphane Combe était notre assistant. Merci à Fabrice Lègle qui a réalisé l'émission, à Anne Gouzon qui a nourri les sites. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un petit débat intéressant sur Notre-Dame-des-Landes. Si, puis aussi une évocation de Pierre Rabhi.